Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. On sait que c'est dur à 4h57, mais vous n'êtes pas seul puisqu'on est là. Bien présent, bien réveillé pour vous aider à vous lever. Vous avez raison de vous joindre à nous pour commencer la journée. Et à la une, ce mardi 17 mai, Julien.
Un moment historique. Une femme à Matignon, pour la première fois depuis 31 ans, la désormais ex-ministre du Travail et des Transports, Elisabeth Borne, a été nommée hier soir première ministre. On va évidemment revenir dans nos différents journaux sur sa personnalité et son parcours.
On a choisi ce matin également de vous parler d'un podcast.
Oui, une création originale Europe 1 Studio qui sort ce matin sur Spotify. L'ombre, c'est son titre. 5 épisodes écrits par Chloé Triomphe qui propose une relecture inédite de l'affaire Estelle Mouzin.
Cette fillette de 9 ans disparue en 2003 à Guermantes. Très vite, le nom de Michel Fourniret va apparaître dans le dossier.
Mais il faudra attendre 17 ans pour qu'il avoue l'enlèvement et le meurtre de la fillette. D'où ces questions qui reviennent inlassablement tout au long de ce podcast. Aurait-on pu connaître la vérité plus tôt? Les enquêteurs, les magistrats ont-ils failli? Et si oui, a-t-on appris de ces erreurs? Eh bien ces questions, on va les poser à l'avocat du père d'Estelle Mouzin, maître Didier. Didier Sauban, rendez-vous à 6h10.
Et juste avant, à 6h10, Marie Jiquel nous fera écouter quelques extraits de ce podcast L'Ombre, disponible dès maintenant sur Spotify.
On va s'intéresser aussi ce matin à ce nouveau rapport sur l'enseignement en cours moyen.
Oui, autrement dit en classe de CM1 et CM2, un rapport mené par l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche. Il pointe du doigt des dysfonctionnements et une disparité des connaissances dispensées par les enseignants.
Des dysfonctionnements qui créent des inégalités entre les écoles et qui pénalisent la plupart du temps les établissements défavorisés.
Un enseignement à géométrie variable, avec souvent l'absence de manuels, des matières laissées de côté comme les arts et les langues vivantes, ou encore l'absence d'évaluation des élèves. Nous y revenons à 5h45 avec deux des auteurs du rapport.
On terminera l'émission avec votre partition.
Un musicien ce matin qui met la contrebasse au premier plan. Le jazzman Avishai Cohen, compositeur, arrangeur, qui s'est frotté au cinéma, séduit par les Français Olivier Nakache et Éric Toledano. Rendez-vous à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme, soyez tous les bienvenus. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Belle et chaude journée en perspective.
Ça y est, c'est parti, on y va, on fonce dans la semaine estivale. Là, on y va tête baissée, les températures sont en train de grimper et le soleil est en train de s'installer. Donc dès les premières heures, hein, ce matin, on va avoir un grand, beau et franc soleil. On a quelques petits bémols tout de même hein, sur les frontières du Benelux, au bord de la Manche. Et puis comme hier, sur les côtes languedociennes, ce sont des entrées maritimes. Mais c'est anecdotique, c'est vraiment pour vous signaler quelques nuages. Mais dans l'ensemble, c'est très très beau. Cet après-midi,
pour
le soleil...
Pour justifier votre salaire.
Oui, voilà, je vais justifier mon salaire. Essayer de trouver des nuages dans le ciel. Cet après-midi, le soleil se maintient et c'est la chaleur surtout hein, que nous allons ressentir. Nous allons avoir une impression de plein été avec des températures ce matin comprises entre 10 et 17 degrés. Donc là, c'est agréable, on respire. Cet après-midi, 21 à 33 du nord au sud. On aura 21 à 24 sur les côtes de la Manche, 25 à 28 degrés sur l'ensemble du pays et jusqu'à 33 la maximale pour Montélimar. Ce n'est que le début. Demain sera la journée la plus chaude de la semaine.
On est en juillet.
Et on va parler de ressenti. Parce que là, je vous parle de 33, mais il y aura un ressenti proche des 40 degrés cet après-midi, avec l'humidité.
Bon, et ben écoutez, merci beaucoup Anissa Haddadi. Hydratez-vous. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe. Il est 5h.
Je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles, en leur disant « Allez au bout de vos rêves ».
Des rêves qu'Elisabeth Borne a réalisés, pupille de la nation, devenue polytechnicienne et désormais première ministre. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu hier soir avec Jean Castex, nous y étions. Le burkini à la piscine de Grenoble, voté de justesse, 29 voix contre 27, victoire de la laïcité pour le maire écologiste Éric Piolle, colère des opposants. Et puis nous irons en Finlande, futur membre de l'OTAN, pays où le maniement des armes n'a pas de secret pour la population. 5 millions d'habitants, 800 000 réservistes.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de ce mardi 17 mai vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Presque 31 ans, jour pour jour, après Edith Cresson, jusqu'ici ministre du Travail, Elisabeth Borne accède à Matignon et devient première ministre. La passation de pouvoir avec Jean Castex a eu lieu dans la soirée, dans une ambiance chaleureuse, avec tout d'abord un discours de son prédécesseur, puis les premiers mots de la nouvelle chef du gouvernement. Arthur Delaborde y était pour Europe 1.
Premier discours comme première ministre pour Elisabeth Borne, avec un hommage appuyé à Edith Cresson, la seule femme l'ayant précédée à ce poste, l'occasion de s'adresser à toutes les petites filles.
Je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
Ses priorités, elle les a rapidement énumérées lors de cette prise de parole d'à peine 5 minutes. Le pouvoir d'achat, la jeunesse, l'écologie, avec une méthode pour agir, le dialogue social. Face à elle, Jean Castex, visiblement très ému, a prononcé un discours d'adieu à la politique nationale. L'ancien Premier ministre a en particulier averti sa successeur sur les critiques qu'attire sa fonction.
Le peuple français est un peuple exigeant, tu le sais. Il ne prend rien pour argent comptant. Il soupèse tout. Mais il sait faire face. C'est un grand peuple, un peuple politique.
Jean Castex, chaleureusement applaudi après la cérémonie par l'ensemble des équipes de Matignon, avant de quitter à pied l'hôtel qu'il aura occupé pendant près de 2 ans.
Arthur Delaborde. Alors, pour occuper Matignon, Emmanuel Macron voulait une personnalité attachée aux questions sociales, environnementales et productives. Alors, en choisissant l'ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, voit surtout une adversaire tenace.
C'est quelqu'un qui vient du ministère du Travail, c'est plutôt positif, on va dire. Il n'en demeure pas moins que c'est quelqu'un de difficile, parce que c'est quelqu'un qui écoute, c'est vrai. C'est quelqu'un qui est très civil, l'échange est facile, aisé, direct, franc. Mais le fait est que c'est quelqu'un qui n'est pas simplement sur la posture politique. Elle va dans les détails de ses dossiers, elle les maîtrise, et donc on ne peut pas parier sur une insuffisante maîtrise technique de ses dossiers. Elle est effectivement dure en affaires. Et donc, en tant que première ministre, elle sera difficile à convaincre, il faudra être à la hauteur. Et on a bien l'intention, nous, d'être à la hauteur, notamment puisqu'on pressant que va venir le sujet des retraites, par exemple, ou sur la question des salaires et du pouvoir d'achat.
Réaction recueillie par Carole Ferry, et la nouvelle équipe gouvernementale qui doit être resserrée est attendue dans les tout prochains jours pour défendre la majorité présidentielle aux législatives des 12 et 19 juin. Elisabeth Borne reste d'ailleurs candidate dans le Calvados.
Le burkini continue de faire des vagues à Grenoble. Le conseil municipal l'a autorisé hier après un vote très serré.
Au terme de 2h30 de débats parfois agités, les Grenobloises pourront donc porter un burkini dans les piscines de la ville à partir du 1er juin, mais aussi se baigner seins nus. Un projet porté et défendu par le maire écologiste Éric Piolle, même si plusieurs membres de sa majorité se sont déclarés en désaccord. Jean-Luc Boujon.
29 pour, 27 contre, deux petites voix d'écart. Comme attendu, le vote a été très serré. Mais au final, on verra bien des burkinis dans les piscines grenobloises à partir du 1er juin, c'est-à-dire dans seulement 15 jours. Un succès étriqué pour Éric Piolle, mais un succès tout de même dont il s'est félicité, soulagé à l'issue du vote.
C'est serré, ça passe. Donc nous, on sait qu'on avait une majorité. C'est une victoire multiple, à la fois pour le droit des femmes et puis aussi pour le respect de la laïcité. La laïcité, c'est important, c'est un de nos textes fondamentaux.
Mais 27 voix contre, cela veut dire aussi que pas moins de 13 membres de la majorité d'Éric Piolle se sont prononcés contre son projet. C'est le cas d'Amel Zenati, musulmane et conseillère municipale en désaccord avec le maire.
C'est un retour en arrière. Les femmes ont pu obtenir au fil de quasiment deux siècles des avancées. Et le burkini, c'est porté par des islamistes, c'est porté aussi par des femmes qui se considèrent féministes, mais pour moi, le féminisme, c'est pas là. Et puis, c'est pas une demande de la communauté musulmane, bien au contraire. Beaucoup de musulmans ne veulent pas être dans ce débat-là.
Un débat dans lequel s'est également invité Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui immédiatement après le vote a confirmé qu'il allait couper toutes les subventions versées à la ville de Grenoble. Le préfet de l'Isère, lui, va déposer un recours devant le tribunal administratif. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et le député Les Républicains Éric Ciotti a déposé quant à lui hier à l'Assemblée une proposition de loi pour interdire le burkini dans les piscines publiques.
Et à 5h06 sur Europe 1, on prend maintenant la direction de la Finlande où les 200 parlementaires poursuivent aujourd'hui l'examen de la candidature du pays pour rejoindre l'OTAN.
Ce qui signifierait une extension de l'Alliance Atlantique aux portes de la Russie. Colère de Vladimir Poutine qui se dit prêt à réagir en cas de déploiement d'infrastructures militaires en Finlande et en Suède, également candidate. L'Élysée répond à ces menaces. La France sera aux côtés des deux pays en cas d'agression.
Et en Finlande, justement, on craint la multiplication de cyberattaques venant de Russie, mais l'armée est confiante.
Oui, car le service militaire y est obligatoire. Pour les hommes, on compte aussi 800 000 réservistes sur les 5 millions d'habitants et des volontaires de plus en plus nombreux pour défendre leur pays. Reportage de notre envoyé spécial Europe 1 Helsinki, Caroline Baudry.
Inspiré pour se camoufler dans la forêt finlandaise, des livres sur le tir, longue distance.
Et quelques conserves militaires sont rangées sur une étagère de l'appartement de Tuomas, cet avocat en chemise impeccable et réserviste depuis 12 ans.
Comment ne pourrais-je pas l'être ? Mon grand-père a fait la guerre d'hiver, puis la guerre de continuation. Ça a toujours été clair pour moi. Le service militaire est ce que l'on fait en Finlande.
Vous seriez prêt à vous battre ?
Oui, bien sûr. On a ce truc en Finlande. Tu dois y aller. Le prochain gars doit y aller. On doit y aller tous ensemble. Moi, je suis content de rejoindre l'OTAN. Ça fait 15 ans que j'attends ça. Ce sera plus sûr pour tout le monde.
Samedi, il s'entraînera lors d'une séance de tir avec de nouveaux volontaires. Chaque jour, une douzaine de personnes écrivent à aussi de l'association d'entraînement à la Défense nationale.
Juste après le 24 février, dès la semaine suivante, beaucoup de personnes nous ont rejoints. Des jeunes, des gens plus matures, des hommes, des femmes. Même un travailleur du bâtiment à côté d'une personne sans emploi ou d'un médecin. La situation sécuritaire étant ce qu'elle est, les gens sont très motivés à agir.
En mars dernier, 5 fois plus de Finlandais ont appris à manier les armes que sur la même période, il y a un an. Helsinki, Caroline Baudry, Europe 1.
Et pour information, si la Finlande intègre l'OTAN, la Russie partagera 1300 km de frontière avec l'Alliance Atlantique.
Retour en France, on connaît le calendrier des vacances scolaires pour l'année 2022-2023.
Et oui, la rentrée aura lieu le 1er septembre et la fin de l'année le 8 juillet. C'est plus tard que d'habitude. Problème aussi pour certains syndicats et médecins. Les élèves de la zone A auront école pendant 2 mois et demi au retour des vacances de printemps, loin des 7 semaines recommandées par les professionnels de santé.
On passe au sport avec Roland Garros. On vous le rappelle, Europe 1, la radio partenaire du tournoi Porte d'Auteuil où les qualifications ont débuté hier.
Déception pour Pierre Hugues, Herbert éliminé dès le premier tour. Ça passe en revanche pour Sean Quenin, Gabriel Debru et Alexandre Muller. Chez les dames, une seule victoire française hier, Jessica Ponchet.
Autre mauvaise nouvelle dans le camp tricolore, le numéro 1, Gaël Monfils est forfait le numéro 1 français.
Oui, le joueur de 35 ans l'a annoncé hier. Il souffre d'une gêne au talon droit depuis le tournoi de Monte Carlo et doit se faire opérer. Ce qui signifie que pour la première fois au XXIe siècle, il n'y aura aucun Français tête de série.
Voilà, c'est dit. C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup, Alban.
5h09 sur Europe 1. Les courses avec à présent le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud et mon pari gagnant sera le 403 Illic. Après s'être imposé pour sa rentrée après 7 mois d'absence, le 12 avril à Fontainebleau, il a confirmé 16 jours plus tard en concluant bon second sur l'hippodrome de Paris-Longchamp face à une opposition relevée et certainement plus qualiteuse que celle qu'il devra affronter cet après-midi. Dès lors, sans incident, il devrait pouvoir justifier la confiance sans réserve affichée par son entourage. Notez bien, pour Saint-Cloud, réunion 1, dans la 4e course, le numéro 3, Illic.
Le numéro 3, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. Et on vous retrouve dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon réveil, vous arrivez pile à temps pour les trois histoires du pressing et avec nous Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
On commence avec vos journaux qui tous évidemment consacrent leur une à la successeuse de Jean Castex. Madame la Première Ministre, c'est elle, titre Le Parisien aujourd'hui en France avec pour illustration Elisabeth Borne sur le perron de Matignon. Une réformatrice techno issue de la gauche, voilà comment le Figaro qualifie la première femme chef de gouvernement depuis Edith Cresson. Ce qui fait d'Elisabeth Borne la deuxième première, comme le titre en une, Libération. Le choix de l'efficacité, juge Lacroix. La casse sociale à Matignon tacle pour sa part l'Humanité qui rappelle que l'ex-préfète et ancienne ministre a mené les réformes de la SNCF et de l'assurance chômage. Un coup dur pour le monde du travail, estime le quotidien communiste. Omblin, quel article avez-vous choisi ?
La cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes aura lieu ce soir. Pour la première année, France Télévisions et le Média Brut seront les vitrines de l'événement. Ils succèdent à Canal+, qui pendant près de 30 ans a été la chaîne officielle de la grande messe du cinéma. Le journal Le Monde revient sur les grandes années Canal au Festival de Cannes et sur les moments les plus marquants. Autant vous dire que c'est un article fleuve. Dès que l'émission Nulle part ailleurs installe son plateau sur la croisette, les pompiers se tiennent prêts à agir. Comme comme ce soir-là de 1995, quand un sketch de José Garcia et Antoine de Caunes préparé en catimini avec un artificier est en train de mal tourner. Le ballon publicitaire d'Europe 1, figurez-vous, installé sur le toit de l'hôtel Martinez, éclate, provoquant un départ de feu sur la terrasse du palace.
Le délégué toujours dans les bons coups.
Voilà, le délégué... il regarde ça comme deux grands enfants qui ont fait une bêtise. Le délégué général du Festival de Cannes, Gilles Jacob, comprend vite qu'il va falloir composer et cohabiter avec les équipes du NPA de nulle part ailleurs. La chaîne mobilise 300 personnes. Les 250 marionnettes des Guignols voyagent dans deux camions différents. Les plus célèbres sont d'ailleurs créés en double et ne voyagent pas ensemble. Le festival de Canal+ concurrence et valorise à la fois le festival de Cannes. Le badge de la chaîne est même plus important que celui de l'événement. Nulle part ailleurs devient bankable et s'amuse du mélange des genres de Chiara Mastroianni à l'acteur porno Rocco Siffredi qui vient remplacer au pied levé Pedro Almodovar. Sharon Stone, elle, arrive sur le plateau par la mer. Et en fin d'émission, la situation est répliquée par José Garcia, grimée en Simone Clone, présidente du fan club de l'actrice américaine et qui, à peine débarquée, est poussée à l'eau par Antoine de Caunes. L'esprit Cannes et Canal+ passe par la présence des plus grandes stars afin de rendre la montée des marches le plus glamour possible. L'équipe dit star dit caprice. À l'image de Jack Nicholson, il ne viendra que dans un avion privé. Michel Denisot donne son accord. Finalement, l'acteur annule. Parce qu'il est interdit de fumer dans le jet. Soirée grandiose, champagne, frasque, humour potache, les folles années Canal. Les folles années Canal au Festival de Cannes.
Pas facile.
C'est
à lire
sur le site lemonde.fr.
C'était les bonnes années.
Ah, c'était, bah, ça a duré,
on savait s'amuser.
Ça a duré un peu moins de 30 ans. En tout.
Merci beaucoup, Omblin. Martin, à vous.
Oui, tout autre chose, hein, avec une performance hors du commun, celle de Lhakpa Sherpa. Alors, son nom ne vous dit rien, mais cette Népalaise de 48 ans vient d'escalader l'Everest pour la 10e fois. C'est la première femme à réaliser cet exploit. Il lui aura fallu 22 ans pour réussir, car atteindre le plus haut sommet du monde est déjà un exploit en soi. Passer 8000 mètres, j'ai l'impression d'être un zombie, raconte-t-elle. On ne peut pas manger, tout est gelé, c'est effrayant. D'ailleurs, une fois en haut, l'alpiniste ne reste qu'entre 5 et 10 minutes. Son histoire d'amour avec cette montagne date de l'an 2000. À 26 ans, elle atteint pour la première fois le sommet. Et depuis, elle n'a qu'une seule envie, y retourner.
Et d'où elle vient, cette fascination pour l'Everest ?
Eh bien, n'en sait rien. Elle a bien grandi au pied de cette montagne mythique. Mais enfant, l'Everest ne l'intéresse pas. Tout ce que Lhakpa veut, c'est aller à l'école. Problème à l'époque, les filles n'ont pas accès à l'éducation au Népal. C'est sûrement animé par un sentiment de revanche que la Népalaise se lance les défis les plus fous. 3 ans à peine après sa première ascension, elle devient la première femme à gravir l'Everest 3 fois. Puis elle l'escalade avec son frère et sa sœur. Une première fratrie à gravir simultanément un sommet de plus de 8000 mètres. C'est inscrit dans le Guinness Book des records. Elle rencontre ensuite son mari, avec qui elle atteint le sommet à 5 reprises supplémentaires, rien que ça.
Incroyable.
Des performances à couper le souffle qui lui ont permis de changer de vie. Adieu le job de femme de ménage dans une grande surface. Lhakpa Sherpa vit aujourd'hui aux États-Unis. Elle assume d'être devenue un modèle. J'ai l'impression d'avoir changé la culture Sherpa, le statut des femmes népalaises, dit-elle. Je n'abandonnerai jamais, je veux que les jeunes femmes n'abandonnent pas. Son prochain défi pourrait être le K2, le deuxième sommet le plus haut du monde, situé à la frontière entre la Chine et le Pakistan. Une montagne réputée encore plus difficile à gravir. Et pourquoi pas s'attaquer une 11e fois à l'Everest, mais cette fois avec son fils et ses filles, qui est Lhakpa Sherpa, cette femme qui a gravi pour la 10e fois l'Everest, c'est à lire sur le site de West France.
10 ascensions de l'Everest, c'est conséquent, avec oxygène ou sans oxygène?
Alors ce n'est pas précisé dans l'article, mais effectivement c'est un détail important parce que ce n'est pas du tout le même exploit.
C'est pas, ouais, effectivement le même délire, entre guillemets, pour parler de jeunes. même si effectivement
il n'y a pas de délire,
ascension avec... L'ascension avec oxygène,
c'est quand même compliqué.
On s'y aventurerait pas.
Non.
Enfin, peut-être vous, Julien. Mais...
Non, ça va. Je reste où je suis. Je vous propose, merci Martin, je vous propose pour ma part un article plus terre-à-terre, un article du Figaro qui se penche sur les récents déboires de Netflix et les solutions mises en place pour redonner du peps au fameux tadam de la plateforme. Car après une décennie de croissance insolente, le géant du streaming a perdu 200 000 abonnés dans le monde au premier trimestre et s'attend à en voir 2 millions supplémentaires lui tourner le dos dans les mois qui viennent. La faute à une concurrence de plus en plus féroce, Disney+, Amazon Prime, Canal+, Apple TV+, OCS, Salto, HBO Max, je reprends mon souffle. et à la fin des restrictions liées au Covid qui nous poussent à sortir davantage, voir des amis, aller au cinéma ou au théâtre, bref, à retrouver une vie normale. Netflix doit donc réagir et les pistes envisagées pour rebondir ont de quoi interpeller. Selon le Figaro, la plateforme explorerait sérieusement la possibilité de diffuser des programmes en direct, des émissions de divertissement, de télé-réalité, de spectacles de stand-up, voire des jeux télé au cours desquels le public serait amené à participer en votant à l'aide de sa télécommande. L'idée derrière ces programmes live, créer des rendez-vous pour mieux fidéliser le public. Autre nouveauté dans les cartons, la fonction directe, déjà expérimentée en France depuis le 5 novembre dernier. Il s'agit d'un flux en temps réel, identique pour tous les utilisateurs et qui permet d'enchaîner les épisodes de différentes séries, émissions ou documentaires disponibles sur le service. Je récapitule. Netflix veut diffuser en direct des émissions de divertissement, des jeux, le tout sur un canal identique pour tout le monde où l'utilisateur n'a pas la main.
Netflix vient de réinventer la télé.
Exactement, voilà. Bonne vieille télévision pour sortir de l'ornière, Netflix est en train, sans l'admettre, de recréer la petite lucarne en reprenant tous ses codes. Avouez qu'il y a de quoi sourire, tant le géant du streaming s'est positionné ces dernières années comme l'anti-télé à papa, morne, rigide, en clair, has-been. Le mimétisme avec les chaînes de télévision traditionnelles est encore plus frappant quand on sait que Netflix penche actuellement sur des offres d'abonnement moins chères avec des programmes entrecoupés de publicité. Oui. Là aussi, ça nous dit quelque chose. Netflix n'est d'ailleurs pas la seule plateforme de vidéo à la demande à prendre ce tournant. Amazon Prime retransmet déjà des matchs de Ligue 1 en direct et des rencontres nocturnes de Roland-Garros. Il y a quelques semaines, Disney Plus avait également diffusé en live aux États-Unis la cérémonie des Oscars. Une première expérimentation concluante de l'aveu du service, si on met de côté la gifle de Will Smith. D'ailleurs, en parlant de performance scénique, Disney vient d'acquérir les droits de Danse avec les Stars, divertissement qui a été diffusé depuis 3 décennies aux États-Unis sur la chaîne de télévision ABC. Elle pourrait très bien à l'avenir être diffusée en direct sur Disney Plus. Bref, ces plateformes que l'on percevait comme des services innovants sont finalement en train de devenir une simple commodité d'usage, comme le sont les chaînes de télévision. En somme, après avoir disrupté l'ancien monde, les géants du streaming n'ont d'autre choix que de reprendre ces bonnes vieilles recettes. Mmh. Comment Netflix et ses concurrents réinventent la bonne vieille télévision, c'est-à-dire ce matin dans le Figaro.
Finalement, c'est comme la mode et comme la musique. Tout ça est bien cyclique.
Ou la politique.
Ou la politique. Tout ça est cyclique. Voilà. Merci Julien et merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour le sport.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19, le journal permanent, Alban Le Prince.
Hommage à Edith Cresson et nomination dédiée à toutes les petites filles. Elisabeth Borne, jusqu'ici ministre du Travail, désormais première ministre après une cérémonie de passation de pouvoir à Matignon dans la soirée avec Jean Castex. La nouvelle équipe gouvernementale doit être connue dans les tout prochains jours. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, devrait rejoindre Opium, une entreprise de construction de voitures à hydrogène haut de gamme. 5 mois après sa fermeture pour des prêches radicaux, la justice rouvre la mosquée de Beauvais avec de nouveaux imams et des engagements sur le respect des valeurs républicaines. Un putsch évicté au Mali. La junte militaire au pouvoir affirme avoir mis en échec la semaine dernière une tentative de coup d'État menée par des officiers et soutenue par un État occidental, sans le citer.
5h20, vous avez la parole chaque matin sur Europe 1. Ce sont à présent les initiatives en France.
Bonjour Juliette Grattadet.
Bonjour Julien.
Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Vous êtes la cofondatrice de Slow Break, une start-up qui organise des week-ends mystères à 2 heures maximum de la ville de départ. Ça veut dire qu'on ne sait pas du tout où l'on va.
Oui, c'est exactement l'idée, c'est-à-dire que la personne ne sait pas du tout où elle va aller, mais pour autant, elle va pouvoir nous indiquer les destinations dans lesquelles elle n'a pas forcément envie d'aller, celles qu'elle connaît déjà et un petit peu ses contraintes qu'elle pourrait avoir pour que nous, on puisse totalement personnaliser son séjour.
Vous organisez absolument tout, le transport, l'hébergement et même les activités sur place ?
Exactement. Donc en fait, dans le package principal sont inclus un billet de train aller-retour, l'hébergement et les petits déjeuners, ainsi qu'une activité. Et nous, on fournit également un guide digital avec des recommandations d'activités, de restaurants et un petit peu toutes les informations pratiques sur place pour que la personne puisse être en totale autonomie ensuite durant son séjour.
Et on peut partir en slow break avec vous depuis quelle ville actuellement ?
Alors actuellement, on a des départs de Paris, Lille, Lyon et Bordeaux et puis bientôt d'autres villes qu'on va ouvrir en 2022.
Et donc ces week-ends se passent dans un rayon de 2 heures autour de ces villes, c'est ça ?
Voilà, alors l'idée, c'est qu'on a donc l'offre principale qu'on appelle le Wonderful Slow Break, donc qui est accessible donc depuis Paris, Lille, Lyon et Bordeaux, comme je l'ai précisé, dans un rayon de 2 heures, 3 heures maximum en train. Et puis on a une autre offre qui est réservée à l'Île-de-France, donc qui est accessible avec un pass Navigo, et pour le coup, dans laquelle sont inclus une nuit d'hébergement et ce guide digital pour pouvoir se déplacer en Île-de-France.
C'est quand même rigolo d'utiliser son pass Navigo pour partir en week-end.
Exactement, l'idée c'est de se dire qu'on voyage plus local dans l'esprit du slow tourisme. On inclut une dimension responsable et éco-responsable pour garder, mettre en avant l'aspect humain et l'aspect environnemental. Le Pass Navigo, c'est en effet se dire, il y a des choses super cool proches de chez nous. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être dépaysé et pour vivre des aventures incroyables.
C'est la question que j'allais vous poser. Vous avez des clients qui reviennent vers vous en vous disant que c'est incroyable ce qu'on peut trouver à moins de 2 heures des grandes villes, les merveilles qu'on peut découvrir.
Tout à fait. Et surtout, ce qui est assez amusant, c'est que nous, on envoie un petit mail de retour d'expérience après les séjours et on demande quelles étaient leurs réactions au moment de découvrir la destination. Et très souvent, les gens sont étonnés, même parfois un petit peu soucieux de ce qu'ils vont découvrir. Et finalement, ils en reviennent très contents parce que l'idée, c'est de se dire que les gens vont découvrir une destination à laquelle ils n'auraient pas pensé, qui n'est pas toujours sexy de l'extérieur parce que c'est pas quelque chose qui est très connu. Et justement, l'idée, c'est de s'éloigner du surtourisme. Mais pour autant, il y a plein de villes et de villages de France qui méritent d'être découverts, qui sont géniaux et qui permettent d'aller à la rencontre des populations aussi locales et de découvrir tout ce qui existe, toute la richesse du patrimoine, de la culture d'une région. C'est vraiment ce que propose Slow Break et ce qu'on souhaite mettre en avant.
Comment vous est venue cette idée ?
Alors, pour être honnête, donc l'idée vient de Mathilde, ma cofondatrice. Et en fait, elle, son idée, c'était que, en fait, jusqu'à il y a quelques années, elle voyageait avec un petit peu une to-do list de plein de choses à voir et à faire. Et puis, elle prenait automatiquement l'avion. Et puis, un jour, en fait, elle s'est dit, moi, je fais plein d'éco-gestes au quotidien, mais à côté de ça, je prends l'avion et il faut arrêter tout ça. Et puis, la to-do list de voyage, c'est un petit peu frustrant parce qu'il y a plein de choses qu'il faut absolument voir, absolument faire. Et c'est pas du tout dans l'esprit vacances. Et donc, en fait, elle s'est dit, je vais abandonner ce réflexe de sauter dans un avion, ce réflexe de to-do list, et puis je vais plutôt essayer de voyager plus localement, de voyager en train. Et surtout, l'idée principale, c'était de se dire, je vais prendre mon temps. Je vais vraiment prendre le temps de découvrir ma destination, de découvrir toute la richesse naturelle, culturelle de la destination, de rencontrer des habitants, des artisans, etc. Et voilà, c'est vraiment ça l'idée de départ.
Est-ce qu'il y a aussi l'idée de reproduire le sentiment d'aventure qu'on peut avoir à l'autre bout de la planète avec un simple sac à dos, de recréer ce sentiment, mais en France ?
Ouais, exactement. En fait, justement, donc il y a toute cette dimension éco-responsable avec un moyen de transport, des hébergements éco-responsables et des activités également. Mais l'idée, en fait, c'était de se dire, on va rajouter cet aspect mystère parce que c'est ça qui crée ce sentiment d'aventure. C'est ça que les gens ont aussi envie de voir en faisant un slow break, c'est de se dire quelque part, je sais pas où je vais, et même si c'est en France, je vais découvrir une destination que je connais pas, sur laquelle même j'ai pas forcément d'a priori, puisque vraiment je connais pas, j'en ai rarement entendu parler, ou alors je sais pas vraiment ce qui se passe là-bas. Et donc c'est un petit peu cette sensation d'aventure qui est recréée via slow break.
Cette fibre écologique, vous arrivez à la prolonger dans les hébergements que vous sélectionnez?
Alors, on arrive à la prolonger dans une certaine mesure, c'est-à-dire que donc on tient vraiment déjà au moyen de transport qui, lui, est vraiment le pilier principal puisque le transport représente la partie la plus polluante d'un voyage. Et ensuite, sur les hébergements, nous, on s'attache vraiment à ce qui est une démarche écologique. Ce qui est vrai, c'est qu'actuellement, il y a très peu de labels sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Il y a très peu d'hébergements qui sont réellement référencés et éco-responsables. Donc nous, on travaille vraiment en collaboration avec les acteurs locaux, à la fois les offices de tourisme et les hébergements directement, pour avoir cette démarche éco-responsable, voir si parfois juste un début de démarche éco-responsable, mais sur lesquels nous, on peut les accompagner. Et puis aussi, en leur envoyant plus de clients, ça leur permet aussi de développer ces aspects-là qui parfois ont un coût aussi, de passer à l'éco-responsable.
Et vous faites partir beaucoup de monde en week-end mystère ?
Oui, alors actuellement, on a une centaine de week-ends qui ont été créés avec Slow Break. Et puis, on a quasiment autant de cartes cadeaux qui ont été vendues. Il faut savoir que ça marche aussi très bien comme cadeau, à la fois pour Noël et puis pour les différents anniversaires, fêtes des mères, fêtes des pères, etc. Et puis, on commence également à travailler avec des CSE aussi qui proposent les week-ends Slow Break à leurs collaborateurs pour développer également leur politique RSE.
Merci beaucoup Juliette Grattadé de nous avoir fait découvrir Slow Break, la start-up qui nous emmène en week-end à destination mystère, c'est très malin. Bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Merci Julien, bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil à l'écoute d'Europe 1. Dans un instant, le journal de 5h30 de Lénaïque Monnier où l'on va s'intéresser à l'histoire familiale de notre nouvelle première ministre Elisabeth Borne. Et puis juste après, l'enseignement des élèves de CM1 et CM2 épinglés par un rapport de l'inspection générale.
Des feuilles volantes ou des photocopies à la place de manuels, des impasses sur des cours de langue vivante, de sciences, de sport, des évaluations imprécises sous forme de bilan de fin de séquence ou des récréations de plus de 3 heures en tout dans la journée. Autant de dysfonctionnements qui créent des inégalités entre les écoles. On y revient dans un quart d'heure avec deux des auteurs du rapport.
Mais avant la météo, Anissa Haddadi, c'est très simple, hein, il va faire beau et chaud.
Oui, franchement, à part quelques petites grisailles ce matin, du côté de la frontière belge, on a un peu plus de nuages au bord de la Méditerranée aussi, on a des entrées maritimes sur le Languedoc comme hier. Et puis sur la pointe bretonne, on a des petits passages nuageux. Franchement, à part ça, le soleil brille dès le lever du jour. Vous allez voir, ça va être impressionnant. Cet après-midi, le soleil l'emporte. Évidemment, il va briller sur toute la France. Les grisailles de ce matin se sont dissipées. On a juste sur la pointe bretonne et sur la pointe du Cotentin quelques passages nuageux qui seront peut-être porteurs d'averses, 2-3 gouttes dans l'après-midi. Mais c'est tout. Les nuages ne seront pas dangereux, mais plus présents également sur le Pas-de-Calais, mais partout ailleurs. C'est du soleil avec des températures en hausse. 10 degrés à Caen et Aurillac, 12 à Cherbourg et Annecy, 13 à Brest et Strasbourg. Ce matin, on respire quand même. Hein. 15 à Nice et Dunkerque, 17 pour Paris, Biarritz, 18 à Bordeaux. Cet après-midi, attention, ça va grimper. Hein. 20 à Dunkerque, 23 à Brest, 25 pour Marseille, 28 à Metz, Lille et Biarritz. 30 degrés à Paris et Clermont-Ferrand, 31 à Bordeaux, 32 à Lyon, 33 pour Agen, 34 à Cahors, avec un ressenti qui va flirter avec les 40 degrés cet après-midi.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
On la connaît sans vraiment la connaître. Qui est donc vraiment la nouvelle première ministre Elisabeth Borne? Nous partons ce matin sur les traces de son enfance en Normandie et nous verrons comment le poste a bien failli lui passer sous le nez. Dans ce journal également, l'inquiétant phénomène des piqûres en boîte de nuit. Pour aider les victimes droguées à leur insu, l'hôpital de Nancy lance un nouveau protocole. Reportage dans ce journal. Et puis Roland Garros, l'année dernière aucun Français n'avait passé le second tour. Peut-on faire pire cette année? Possible, nous dira Axel May.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Elisabeth Borne est donc entrée à Matignon, succédant à Jean Castex. La voici, deuxième femme, première ministre de la 5e République. On l'a connue ministre des Transports, de la Transition écologique et du Travail. C'est une polytechnicienne et ingénieure, mais pour le reste, eh bien c'est Guillaume Dominguez qui s'est penché sur ses origines, direction le Calvados.
L'Ivaro, avec ses maisons à colombages, sa place centrale au pavé rouge et son célèbre fromage, c'est dans ce village que l'on retrouve les traces de la famille d'Elisabeth Borne du côté de sa mère. Son arrière-grand-père, Louis-Désiré Le Seine, tenait la pharmacie du village au début du siècle dernier. Officine reprise par son fils, Marcel Le Seine, qui fut maire de l'Ivaron entre 1939 et 1945. Dans le village, Claude, un bon 90 ans, se souvient avoir reçu de ses mains son certificat d'études.
Oui, je l'ai connu, mais j'étais quand même gamin. Hein. Comme tous les maires et tout ça, ils redonnaient les prix. Quoi.
Marguerite Le Seine, mère d'Elisabeth Borne, a grandi à l'Ivaro. Mais c'est à Paris qu'elle rencontre son mari, Joseph Bornstein, à la vie beaucoup plus chaotique. Réfugié juif d'origine russe, il fut résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Arrêté, évadé, déporté, il devient Joseph Born après sa naturalisation en 1950. À sa mort, en 1972, alors âgé de 11 ans, Elisabeth Borne devient pupille de la nation et c'est grâce à ce statut qu'elle obtient une bourse pour rentrer à l'école polytechnique. À l'Ivaro, si le souvenir de la famille s'estompe, le peu qu'il en reste peut encore susciter l'admiration comme chez Sylvie.
Une fierté, je ne sais pas, peut-être plus tard, quand on verra ce dont elle va mettre en place, ce qui va se passer pour nous pour la suite. Effectivement, là, peut-être, on appréciera Elisabeth Borne.
Une responsabilité supplémentaire pour la nouvelle première ministre.
Et c'est d'ailleurs dans le Calvados où elle reste candidate qu'Elisabeth Borne va mener la bataille des législatives.
Elisabeth Borne qui a été pressentie depuis plusieurs semaines à Matignon, mais le poste a bien failli lui échapper.
Oui, comme Europe 1 vous le disait hier, un autre nom avait les faveurs du président de la République, l'ancienne LR Catherine Vautrin, porte-parole de Nicolas Sarkozy pendant les primaires de 2016. Jacques Severet, on va voir avec vous un petit peu les coulisses. En fait, Emmanuel Macron a changé son fusil d'épaule au tout dernier moment.
Oui, Emmanuel Macron a cédé aux pressions de son propre camp, car jusqu'à ce week-end, le chef de l'État pensait nommer Catherine Vautrin, une femme de droite, élue locale, présidente de la communauté urbaine du Grand Reims. Sauf que voilà, lorsque la rumeur de cette nomination s'est répandue en Macronie, le président a dû faire face à une levée de boucliers. Ses plus proches soutiens, tels que Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, issu du PS, ou encore François Bayrou, le patron du Modem, lui ont fait part de leur désapprobation. Alors même que le président était en déplacement dimanche aux Émirats Arabes Unis, plusieurs fidèles ont insisté sur cette prise de position de Catherine Vautrin, à savoir son opposition au mariage pour tous en 2013 lorsqu'elle était députée de la Marne, un marqueur incompatible avec la ligne progressiste selon un marcheur historique. Conséquence, de retour à Paris et contraint de dévoiler le nom du nouveau locataire de Matignon après 22 jours de suspense, Emmanuel Macron s'est ravisé pour nommer Elisabeth Borne, celle qui était à la base son premier choix au lendemain de la présidentielle. Mais il n'oubliait pas pour autant Catherine Vautrin. L'ex-LR pourrait hériter d'un ministère régalien. Un conseiller évoque pour elle le ministère de la Justice.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Elisabeth Borne va donc former son gouvernement très rapidement avec ce projet, agir plus vite et plus fort pour le climat. Sur sa feuille de route également, l'épineux dossier de la réforme des retraites.
Dans le reste de l'actualité, Grenoble, où c'est oui pour le Burkini.
Et tout s'est joué à deux petites voix, comme on s'y attendait. Le vote au conseil municipal s'est avéré très serré, mais au final, on verra bien des Burkinis dans les piscines publiques de Grenoble à partir du 1er juin. En réaction, le préfet l'Isère va déposer un recours devant le tribunal administratif. La région Auvergne suspend ses subventions à la mairie. Et sur le plan national, Éric Ciotti, lui, veut déposer une proposition de loi pour l'interdire.
En Ukraine, plus de 260 combattants ukrainiens, dont 53 blessés, ont été évacués de la Syrie Azovstal.
Oui, c'est le dernier bastion, vous le savez, de résistance de Mariupol. Au même moment, l'offensive russe dans le Donbass s'est intensifiée et a fait 10 morts dans la région de Louhansk. Moscou qui a par ailleurs averti qu'elle réagirait à des déploiements d'infrastructures militaires de l'OTAN en Finlande et en Suède, candidate à une entrée dans l'OTAN.
5h passées de 35 minutes sur Europe 1. On revient en France avec ce phénomène inquiétant dont on vous a déjà parlé sur cette antenne. De plus en plus de personnes sont droguées à leur insu dans les bars et les boîtes de nuit.
Des piqûres sauvages qui provoquent des nausées, des maux de tête, des vomissements et déjà plus de 100 plaintes dans toute la France. Depuis hier, à l'hôpital de Nancy, des médecins proposent aux victimes présumées d'effectuer des prélèvements en cas de doute. Et en cas de plainte, ces résultats seront réquisitionnés par la justice. Les explications de Mélina Fachin.
Ici, aux urgences de l'hôpital de Nancy, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Depuis plusieurs mois, depuis la réouverture des boîtes de nuit en fait, Lionel Nas, le chef du service, voit de plus en plus de personnes convaincues d'avoir été droguées à leur insu, d'où ce nouveau protocole.
Il y a simplement des prélèvements de type sanguin et urinaire. Les éléments vont être conservés 5 jours. Si la victime ne porte pas plainte durant ces 5 jours, les prélèvements seront détruits. S'il y a plainte, ça va suivre son cours.
Et ça pourra servir potentiellement de preuve.
Tout à fait.
Et le fait de conserver les échantillons est très précieux pour les victimes. Emmanuel Puskarzik, chef du centre antipoison de l'hôpital.
L'intérêt, c'est d'arrêter la course effrénée contre le temps, parce que chaque minute compte, chaque heure qui passe laisse de moins en moins de chances de retrouver la trace des substances psychoactives qui ont été administrées. Et ça laisse le temps de se dire, ah bah oui, j'ai peut-être intérêt à aller porter plainte.
Cet examen gratuit fonctionne aussi pour les étranges piqûres rapportées un peu partout en France ces dernières semaines. D'ailleurs, deux nouvelles plaintes ont encore été déposées ici, hier. Nancy, Mélina Fachin, Europe 1.
Les sports, le tournoi principal de Roland-Garros n'a pas encore commencé, que le tennis tricolore fait déjà grise mine.
Oui, le tennis français est très en méforme. Il se prépare aux retraites de Joffrey Tsonga et de Gilles Simon. Comme si ça ne suffisait pas, la meilleure chance française, Gaël Monfils, a déclaré forfait hier. Et ce n'est pas tout. Axel May, ça démarre mal hein, cette histoire.
Oui, Gaël Monfils blessé, le meilleur français au classement ATP désormais. Hugo Humbert, 45e mondial seulement. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, aucun joueur tricolore ne devrait être tête de série à Roland-Garros, statut qui permet d'éviter des adversaires redoutables dès l'entame du tournoi principal. Pierre Hugerbert, tenant du titre en double, éliminé dès les qualifications en simple hier, dresse un constat implacable.
On n'a pas assez profité aussi de la période où on avait des monstres devant. Et aujourd'hui, voilà, ça ne se passe pas très bien en France au niveau du tennis. Et il va falloir qu'il y ait une réaction aussi de ce point de vue-là. Une réaction pour moi aussi, arriver à faire bien mieux.
Ces monstres évoqués par Pierre Hugerbert, ce sont les quatre mousquetaires. Monfils, forfait, Tsonga et Simon qui vont disputer leur dernier Roland-Garros grâce à une invitation. Et Richard Gasquet qui n'a plus franchi un troisième tour en Grand Chelem depuis 6 ans déjà. Quant à la nouvelle génération, elle tarde à éclore. Chez les filles, même constat, la meilleure française inscrite à Roland-Garros est Alizée Cornet, 32 ans, 40e mondial.
Axel Mehdi, service des sports d'Europe 1. Il faudra quand même essayer d'éviter de reproduire le zéro pointé au troisième tour l'année dernière. On suivra ça avec attention puisque vous le savez, Europe 1 est radio officielle de Roland Garros.
Et Alizée Cornet qui vient de sortir un roman. Elle se lance dans l'écriture. Merci beaucoup Lénaïque Monnier pour ce journal. On passe aux courses. Les pronostics du quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. Direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour ce quintet qui réunira un lot homogène de 16% âgés de 4 à 7 ans. Tous bien connus des turfistes, sur la distance de 2000 mètres. Et j'ai placé en tête de mon pronostic les numéros 4, Rue des Irlandais, et 16, Bene Bene, respectivement deuxième et troisième d'un quintet similaire, le 2 avril, sur le parcours qui nous intéresse, et qui, en dépit de performances en dents de scie depuis, me semble être malgré tout deux priorités. On leur opposera les numéros 2, Îlot Secret, et 5, Baratin, qui ont la particularité de rester tous les deux sur une victoire dans une course à conditions en province et qui avaient auparavant prouvé à maintes reprises qu'ils avaient le niveau pour très bien faire dans cette catégorie des quintets. Enfin, méfiez-vous des numéros 11, Neishan, 3, Let It Fight, 15, Or, et 9, El Magnifico, capables eux aussi, jugés sur ce qu'ils ont réalisé de mieux, de s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 4, 16, 2, 5, 11, 3, 15 et 9.
Et rendez-vous sur europe1.fr pour retrouver tous les pronostics de Thierry Léger. Merci Thierry.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'Euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
C'est aujourd'hui, 17 mai, la journée internationale contre l'homophobie. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Ambline.
Il y a 40 ans, Laure, en 1982, l'homosexualité était dépénalisée en France, mais Europe 1 était sans tabou sur ce sujet depuis quasiment la création de la radio.
Oui, en 1960, par exemple, Europe 1 suit le mariage d'un couple homosexuel à Saint-Cloud, en région parisienne, et l'adjoint au maire répond à une interview.
Tout s'est passé régulièrement, comme dans tout mariage normal.
Oui, y avait-il beaucoup de monde au mariage ?
Disons qu'il y avait peut-être une vingtaine de personnes.
Mais évidemment, du point de vue du droit et du point de vue religieux, ce mariage est considéré comme nul, dit alors un prêtre de Saint-Cloud.
Il est évidemment contraire à l'ordre public que ce mariage continue d'avoir l'air d'exister. À cet effet, il existe, devant les tribunaux ecclésiastiques, un ecclésiastique qui peut, et qui semble-t-il doit intervenir. On l'appelle le promoteur de justice.
Et le promoteur de justice avait alors saisi le tribunal ecclésiastique à propos de ce mariage.
Et l'une des grandes voix d'Europe 1 contre l'homophobie dans les années 70 et 80, c'était bien sûr la voix de Coluche.
Oui, dans son émission « On n'est pas là pour se faire engueuler », faite de provoques, de rigolades, de parodies musicales, Coluche parle d'un nouveau magazine qu'il a reçu. On est au mois de mars 1979.
Oh, j'ai reçu un livre formidable. C'est un journal, ça s'appelle Le Guépier, j'ai le numéro 0 de février 79, le quotidien des homosexuels. C'est quotidien maintenant, l'homosexualité, alors ça s'appelle Le Guépier. Je suis content quand même qu'il y ait un journal PD, enfin je sais pas si on peut dire ça, PD, oui on peut dire.
Ça y est, c'est dit de toute façon.
Ah oui, ça vient, je viens de le faire. Parce que quand même, c'est un pas vers la liberté. Quoi.
La première Gay Pride a lieu en 1981, pendant la campagne présidentielle, et Europe 1 est sur place.
Entre 1963 et 1975, plus de 6000 personnes ont été condamnées pour homosexualité par les tribunaux français. Pour beaucoup de gens, effectivement, les homosexuels, ça ne devrait pas exister. Et ça, nous voulons montrer que non seulement nous existons, mais qu'il est hors de question que nous nous laissions enfermer, bafouer, réprimer, etc.
En 1985, Michel Drucker reçoit Thierry Leluron qui parle de son faux mariage avec Coluche, mariage plein d'humour qui est entré dans la légende, et les gens dans la rue sont interrogés sur le mariage homosexuel.
Si une femme et un homme se marient, c'est pour avoir des enfants. Eux, ils vont se marier pourquoi ?
Un mariage, c'est une histoire d'amour, quoi. Donc, deux mecs qui se marient ensemble, c'est qu'ils s'aiment vraiment, c'est qu'ils ont décidé de s'engager l'un par rapport à l'autre.
Qui se marie entre eux ? Non, moi je trouve ça vraiment anti-conforme, tu vois.
La France légalisera le mariage homosexuel presque 30 ans plus tard, en 2013, devenant le 14e pays au monde à l'autoriser.
Merci beaucoup Laure d'Autriche et à demain pour un nouveau jour où, dans un instant sur Europe 1, un nouveau rapport sur l'enseignement à l'école en CM1 et CM2.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info.
l'info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de brancher Europe 1. Il est 5h43 et on se penche à présent sur ce nouveau rapport de l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche. Rapport qui dresse un état des lieux et des besoins de l'enseignement en cours moyen, c'est-à-dire en classe de CM1 et CM2. On en parle tout de suite, Ombline, avec deux de ses auteurs.
Bonjour Anne Zimzak.
Bonjour Lame.
Vous pilotez la mission enseignement primaire et vous êtes coordinatrice des missions de l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche. Bonjour Olivier Huneau.
Bonjour madame.
Vous êtes inspecteur général et vous avez copiloté ce rapport sur l'enseignement en cours moyen. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Alors l'an dernier, une quinzaine d'inspecteurs généraux ont observé le fonctionnement de 160 écoles de CM1 et CM2 dans 29 départements. Le rapport revient sur l'organisation générale du travail, que ce soit sur les outils pédagogiques, les emplois du temps, mais aussi sur les enseignements par discipline, mathématiques, français, histoire, géo. Anne Zimzak, qu'est-ce qui dans un premier temps vous a sauté aux yeux ?
Nous a sauté aux yeux dans un premier temps, c'est l'implication de l'ensemble des acteurs et la diversité du travail à mener pour des enseignants qui ont 7 champs disciplinaires à mettre en œuvre dans leur classe, avec des conditions très disparates selon la nature des écoles. Parmi les 49 000 écoles en France, il y a des écoles à une classe et des écoles à 20 classes. Donc une grande diversité du paysage.
Est-ce qu'il en découle de cette diversité certaines inégalités ?
Non pas certaines inégalités, mais des conditions de mise en œuvre des programmes ou des enjeux réglementaires qui peuvent être différentes. Et donc une prise en compte justement de cette diversité qui doit être réalisée par à la fois les équipes écoles et les inspecteurs qui encadrent ces équipes écoles et qui les accompagnent pour qu'elles s'améliorent.
On ne va pas pouvoir hélas revenir ensemble sur tous les points du rapport. J'engage d'ailleurs les auditeurs à le parcourir hein, puisqu'il est accessible sur le site de l'Éducation nationale. Parmi les chiffres marquants, Olivier Huneau, alors c'est l'absence de manuels. En français comme en mathématiques, 40% seulement des classes en disposent et ils sont pratiquement inexistants dans les autres matières. De nombreux enseignants font travailler leurs élèves sur des photocopies. Il existe donc une disparité des connaissances dispensées si tous ne se réfèrent pas aux mêmes documents.
Alors même s'ils avaient des manuels, de toute façon ils n'auraient pas les mêmes manuels et donc ils n'auraient pas nécessairement les mêmes documents et auraient chacun leurs documents. Ce qui nous interroge plus dans cette absence de manuels, c'est le fait de s'appuyer sur des photocopies qui sont souvent de mauvaise qualité, qui sont en noir et blanc, alors qu'on voudrait plutôt travailler, je pense en histoire ou en sciences, sur des documents en couleur, avec des reproductions d'œuvres connues et en couleur également, qui seraient beaucoup plus marquantes pour les élèves. Et donc c'est pour ça que disposer de manuels serait important et est un regret pour nous qu'il n'y en ait pas davantage dans les classes.
Concernant les horaires d'enseignement, je reviens vers vous, Anne Zimzak, ils sont respectés, voire dépassés en mathématiques et en français, mais d'autres matières semblent bénéficier d'une bien moindre attention, voire d'une absence totale de cours. Est-ce la pression mise sur les fondamentaux par l'Éducation nationale qui est en cause ?
Je ne dirais pas que c'est une pression et qu'elle est en cause. C'est une orientation particulière qui est absolument nécessaire et fondatrice, et qui effectivement a été bien mise en œuvre par les enseignants. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des situations peuvent être héritées aussi de l'histoire d'une école, d'une organisation particulière. Mais l'essentiel est de faire ce constat localement au sein des écoles et de réguler l'ensemble.
Dans ce rapport, Olivier Huneau, vous revenez également sur les classes double niveau. Si les raisons peuvent être multiples comme la taille de l'école, parfois c'est un choix délibéré de l'équipe pédagogique. Si sur le papier, c'est souvent présenté comme une bonne idée et ça l'est sans doute la plupart du temps, mais pour certaines matières dispensées en cours moyen, vous agitez quand même le chiffon rouge.
Oui, en effet, parce que là, il y a une situation particulière qui est celle de la pandémie, parce qu'il y avait des habitudes dans les écoles où les gens travaillent beaucoup ensemble. C'était certainement des choses très intéressantes de se partager les élèves à certains moments en mettant ensemble les CM1 d'une même classe et les CM2 d'une même classe pour pouvoir faire les cours d'histoire ou de géographie. Et il est vrai que ces habitudes d'école, qui étaient très intéressantes parce qu'elles conduisaient les enseignants à travailler ensemble, a été très, disons, impactante pendant la pandémie, avec l'impossibilité de faire circuler les élèves d'une classe à l'autre, et donc a rendu l'enseignement de ces disciplines beaucoup plus difficile.
Et puis il y a bien sûr, on change de niveau, de CM1 à CM2, cela peut être compliqué aussi d'enseigner à une partie de la classe une matière sans que l'autre ne puisse être impliqué, on ne peut pas tout mélanger.
CM1, CM2 sont des classes qui vont assez bien ensemble, puisque c'est dans le même cycle, hein, l'école fonctionnant par cycle, donc on a les mêmes programmes avec une montée en puissance, et donc on reprend en CM2 une grande partie des notions de CM1, et de toute façon la pédagogie pédagogie, hein, c'est répéter plusieurs fois les choses et revenir régulièrement pour pouvoir les faire acquérir. Et donc le travail en CM1, CM2 n'est pas véritablement un problème et est plutôt une idée assez intéressante.
Quels enseignements, si je puis dire, doit-on tirer de ce rapport, Olivier Huneau? Qu'est-ce que vous préconisez?
On préconise un certain nombre de choses dans le rapport qui sont résumées au début du rapport. Ce qui semble important, c'est peut-être de revoir certains programmes, notamment l'histoire-géographie, puisqu'on a vu les difficultés que ça a été et que ça a présenté. On a surtout émis un grand nombre de vigilances, parce qu'il s'adresse, il peut être lu autant par les enseignants que par les inspecteurs sur le terrain, à différents niveaux, pour pouvoir prendre conscience que ce qu'ils font au niveau des écoles n'est peut-être pas ce que font leurs collègues dans les autres écoles sans qu'ils le sachent. Et donc le rapport les éclaire sur cela et leur donne d'autres pistes de travail, d'autres façons de faire sans doute, et pouvoir ainsi partager des pratiques d'autres écoles pour pouvoir améliorer ce qui se passe dans leur propre école.
Anne Zimzak, comment est-il reçu ce rapport par les acteurs, les enseignants, les membres de la direction?
Les inspecteurs de l'éducation nationale, avec qui nous avons des relations fréquentes, apprécient beaucoup ce type de rapport avec une vision large sur un échantillon bien plus divers que ce qu'ils peuvent avoir sur leur propre territoire, qu'on appelle des circonscriptions du premier degré. Et donc, ça leur ouvre des pistes de travail, des pistes de mobilisation des équipes pour le partage d'observations de classe sur, par exemple, les outils, les affichages. Donc, le rapport est particulièrement bien reçu.
Merci Anne Zimzak. Je rappelle que vous pilotez la mission enseignement primaire et que vous êtes coordinatrice des missions de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Merci également Olivier Huneau. Vous êtes inspecteur général et vous avez copiloté le rapport sur l'enseignement en cours moyen. Merci, bonne journée.
Merci.
Merci, bonne journée à vous.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h53 sur Europe 1. Bon réveil à tous. L'essentiel de l'actualité avec Alban Le Prince.
Pupille de la nation, polytechnicienne et maintenant première ministre, Elisabeth Borne, nommée chef du gouvernement hier. La passation de pouvoir a eu lieu dans la soirée avec Jean Castex. La nouvelle équipe gouvernementale doit être connue dans les tout prochains jours. Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie aujourd'hui. Et selon les données publiées par le ministère de l'Intérieur hier, les plaintes pour injures, menaces ou agressions envers les personnes LGBT ont doublé en 5 ans. Aux États-Unis, Joe Biden se rend à Buffalo aujourd'hui, théâtre samedi d'une tuerie de masse horrible et insensée selon les mots choisis par la Maison Blanche. Les armes à feu qui représentent un fléau dans le pays avec un rythme moyen de 118 morts quotidiens.
L'actualité culturelle avec ce matin une prescription un peu particulière.
Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Omblin et Julien, bonjour à tous.
Marie, ce matin, vous nous présentez ce podcast produit par Spotify et Europe 1 Studio qui sort aujourd'hui. L'ombre, c'est son nom, revient sur ce fait divers qui a bouleversé la France et dont la résolution a pris près d'une vingtaine d'années. On parle évidemment de l'affaire Estelle Mouzin, cette petite fille qui a disparu le 9 janvier 2003 à Guermantes et qui a été enlevée puis assassinée par Michel Fourniret.
Un fait divers associé à une image qui apparaît automatiquement dans les esprits, la photo d'Estelle Mouzin, celle qui a occupé les commissariats et les médias, un fond bleu et le visage de cette fillette de 9 ans, les cheveux bruns attachés, elle porte un pull rouge. Et justement, ce pull rouge va devenir un élément symbolique pour le père d'Estelle, mais aussi pour l'enquête. Comme l'explique la journaliste Chloé Triomphe, c'est elle qui s'est replongée dans ses années de recherche pour nous livrer ce récit en 5 épisodes.
C'est un pull en laine, tricoté à la main, comme beaucoup d'entre nous en ont porté enfant. Mais dans cette image, il y a une histoire cachée, une histoire de famille. Éric Mouzin n'en avait jamais parlé. Il me l'a raconté spontanément, et son émotion m'accueillit sans prévenir. Cette histoire commence le jour où un brin de fil rouge est retrouvé dans la camionnette du tueur en série, Michel Fourniret.
Alors Chloé Triomphe, que l'on vient d'entendre, mène ce podcast, mais le père d'Estelle Mouzin, Éric Mouzin, y participe aussi, sa parole, et vous vous en doutez, émouvante et précieuse, il se souvient évidemment de tout.
Oui, il se confie sur ses années d'attente, une éternité commencée le soir de la disparition d'Estelle. Il reçoit un coup de téléphone de son ex-femme, la mère de sa fille.
Le coup de téléphone vers 20h45, c'est Estelle n'est pas rentrée à la maison. Ce n'est pas Estelle qui a disparu. C'est pas la même chose. J'ai encore cette sensation d'une, de ma colonne vertébrale qui se transforme en bloc de glace.
L'enfer commence alors pour la famille Mouzin et la bataille s'engage pour savoir où est Estelle. Et bien sûr, une ombre plane sur le dossier. L'ombre, c'est celle de Michel Fourniret, un spectre terrifiant. Et puis cette question, aurait-on pu connaître la vérité plus tôt ? Le tueur en série, de plus en plus visé, va tenter de brouiller les esprits des enquêteurs et celui du père d'Estelle.
Michel Fourniret me dit qu'il n'a rien à voir avec l'enlèvement d'Estelle, mais qu'il veut me rencontrer, ce qui est bon. Je dis, moi, je veux bien y aller, mais je ne veux pas y aller comme un mouton va à l'abattoir. Je veux y aller en sachant exactement comment je dois me comporter vis-à-vis d'un individu de cet acabit.
Et justement, une grande partie de ce podcast est consacrée au dernier rebondissement de l'affaire lorsque Michel Fourniret, disparu l'année dernière, et son ex-épouse Monique Olivier ont réussi à se faire oublier du dossier.
Et comment ils ont fini par avouer. La série L'Ombre est poignante, très bien documentée et puis elle s'écoute d'une traite.
L'Ombre, produit par Europe 1 Studio, un podcast à découvrir gratuitement sur Spotify dès ce matin. 5 épisodes d'une trentaine de minutes. Merci beaucoup Marie Jiquel.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant, la météo, le journal. Et cette création originale Europe 1 Studio.
Oui, Marie Jiquel nous en parlait à l'instant. Podcast dont on est très fier et qui sort aujourd'hui sur Spotify. L'Ombre, c'est son titre. 5 épisodes écrits par Chloé Triomphe. Eh bien, pour l'occasion, nous avons invité Maître Didier Sauban, l'avocat du père d'Estelle Mouzin, pour répondre à cette question. Aurait-on pu connaître la vérité plus tôt ? Est-ce qu'il y a eu des failles dans cette affaire ? Est-ce que les ex-policiers, les anciens magistrats ont failli ? Et si oui, a-t-on progressé dans cette affaire ? On en parle dans une dizaine de minutes avec Maître Didier Sauban, l'avocat donc du père d'Estelle Mouzin. Et puis juste après, on bline votre partition.
Un jazzman qui a le sens de la fête. C'est lui qui signe la bande originale du film de Nakache Toledano, Le sens de la fête. Donc le contrebassiste Avishai Cohen en concert ce soir et dans la partition ce matin à 6h20.
La météo, Anissa Haddadi, les températures grimpent.
Oui, alors ce matin, on respire encore un peu quand même, ça reste agréable. Vous avez dû dormir les fenêtres ouvertes, hein, j'imagine, cette nuit, parce que c'était agréable, mais pas trop frais non plus, pas trop chaud. On a 10 degrés à Nancy, 12 à Brive et à Sochaux, 14 à Lille et à Lyon, 17 à Paris et à Biarritz, 18 à Bordeaux. Ça, c'est pour ce matin. On va changer d'ambiance cet après-midi. Alors là, je peux vous dire que vous allez fermer les volets et les fenêtres, puisqu'on aura 21 degrés à Nice, 23 à Lorient, 25 à Bastia et Marseille, 28 degrés pour Lille et Strasbourg, 29 à Reims, 30 degrés pour Paris et Clermont-Ferrand, 32 à Brive et Toulouse, 34 à Cahors, sachant que le ressenti avec l'humidité sera bien plus lourd. Dans le ciel, eh bien on aura du soleil pour tout le monde. On a 2-3 grisailles matinales du côté du Cotentin et du bord de la Méditerranée. Ce sont des nuages anecdotiques.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1. Très bon début de journée à tous. Nous sommes le mardi 17 mai. Et il est 6h. Une main de fer dans un gant de velours, Elisabeth Borne à Matignon, une femme discrète avec de la poigne, y compris face aux syndicats. Son portrait et ses réformes dans un instant. Le burkini autorisé dans les piscines de Grenoble, le conseil municipal a validé la mesure sur le fil hier soir. Un nouveau règlement poussé par une association très critiquée par l'opposition. On va tout vous expliquer. Et puis la planète cinéma retrouve sa capitale cannoise. Début du festival ce soir, retour des strass, des paillettes et surtout des touristes après 2 ans de pandémie.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Elisabeth Borne, première ministre, la deuxième à occuper ce poste, 31 ans après la nomination d'Edith Cresson, qui a salué, je cite, « un très bon choix, car c'est une personne remarquable, pas parce que c'est une femme ». Sur le perron de Matignon, lors de la passation de pouvoir, Elisabeth Borne lui a rendu hommage hier avec un mot aussi pour les prochaines générations.
Je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles, en leur disant « allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
Une femme à Matignon, un symbole souligné par la classe politique, du Rassemblement National au LR, en passant par le Parti Socialiste jusqu'à la France Insoumise. Des partis qui n'ont en revanche pas retenu leur coup sur le profil politique de la nouvelle Première Ministre.
Oui, qui était aussi ancienne ministre des Transports, de la Transition écologique, puis du Travail jusqu'à dimanche. Elisabeth Borne a traversé tout le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, avec des chantiers phares comme la réforme de l'assurance chômage ou celle de la SNCF. Aurélien Fleureau, dans les deux cas, elle n'a pas pas laissé que des bons souvenirs aux syndicalistes.
Oui, ce qui revient le plus souvent dans la bouche des interlocuteurs qui ont croisé Elisabeth Borne autour d'une table de négociation, c'est l'image de grand serviteur de l'État, de la technocrate femme de dossier qui applique à la règle la feuille de route qui lui est confiée de manière trop intransigeante et sans réelle capacité d'écoute. Se souviennent tous les syndicats de cheminots de la SNCF qui ont bataillé tellement dur avec elle au printemps 2018 qu'ils avaient fini par boycotter les rendez-vous au ministère des Transports et demander à être reçus directement par Édouard Philippe à Matignon, celle qui fut directrice de cabinet de Ségolène Royal, fait actuellement partie de Territoires de Progrès, mouvement social-démocrate au sein de la majorité. Politiquement issue des rangs de la gauche, elle a pourtant acté la fin du statut des cheminots, réformé l'assurance chômage pour durcir l'accès à l'indemnisation et n'hésite pas à dénoncer les dérives de l'assistanat. Dans les mois qui viennent, les syndicats s'attendent donc à trouver en face d'eux une adversaire coriace, notamment sur le dossier des retraites. Selon un proche collaborateur, quand elle a un objectif en tête, elle ne le lâche pas.
Et Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Et l'objectif d'Elisabeth Borne, ce sont aussi les élections législatives. La première ministre jamais élue pour l'instant se présente en juin dans le Calvados.
Le règlement va changer dans les piscines municipales de Grenoble. À partir du 1er juin, le burkini sera autorisé dans les bassins.
Une mesure validée hier soir en conseil municipal. 6 heures de séance et un vote serré 29 à 27. Après Rennes, Grenoble est donc la deuxième ville de France à autoriser ses maillots de bain couvrants dans ses piscines. Cette réforme était poussée depuis près de 3 ans par Alliance Citoyenne, une association très critiquée par l'opposition, Alexis de la Fontaine.
Oui, à commencer par ses méthodes agressives. Plusieurs fois, ses membres ont forcé l'entrée des piscines municipales pour se baigner en burkini. Ou encore la création de son équipe de foot, les hijabeuses, pour réclamer l'autorisation du voile dans les compétitions officielles. Mais son financement interroge également. L'association qui aurait de l'influence sur Éric Piolle touche des milliers d'euros de la mairie de Grenoble qui refuse de dévoiler le montant précis et de 80 000 euros du milliardaire controversé Georges Soros. En 2021, Gérald Darmanin avait demandé à la Commission européenne d'annuler sa subvention de 60 000 euros à l'association, car selon lui, elle porte atteinte aux valeurs de la France, mais sans résultat. Enfin, selon Le Parisien, cette association, qui se revendique féministe et anti-islamophobie, organise un fichage des Grenoblois, avec le détail de leurs croyances, leur origine ou même leur état de santé à des fins électorales.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Ils sortent de l'enfer d'Azovstal. Plus de 260 soldats ukrainiens évacués de l'usine de Mariupol par les forces pro-russe. Il devrait être rapatrié en Ukraine grâce à une procédure d'échange. Kiev qui a repris le contrôle de la frontière près de Kharkiv au nord, une première depuis le début de la guerre.
L'Ukraine qui fera aussi partie des incontournables du Festival de Cannes. Plusieurs films tournés dans le pays font partie de la sélection officielle.
Et la grand-messe du cinéma démarre aujourd'hui. Cérémonie d'ouverture à 19h. Retour des strass, des paillettes et des touristes aussi. Après 2 ans de pandémie, ils retrouvent la croisette et aussi notre correspondant Frédéric Michel.
Indien, anglais, allemand, devant le palais des festivals, on parle toutes les langues. Louis Paul est venu couvrir la quinzaine du cinéma pour un média québécois.
Ça fait plaisir de revenir. Je le retrouve comme il était. Je n'étais pas venu l'an dernier. J'ai hâte de commencer le festival avec le soleil en plus.
Hôtel Martinez, concierge, good morning.
À l'hôtel Martinez, la clientèle est à 80% étrangère. Yann Gillet est le directeur général de l'établissement.
C'est quelque chose qui nous a surpris de voir un démarrage aussi rapide avec la clientèle internationale, surtout une clientèle américaine, sud-américaine, du Moyen-Orient qui revient en force. On n'a pas que les stars, on a bien sûr les festivaliers, puis on a aussi quelques touristes qui découvrent l'ambiance festival.
Même le célèbre gang des escabeaux installé devant les marches du palais accueille des chasseurs d'autographes du monde entier. Joe a 35 ans de festival à son compteur.
On a commencé par un escabeau de 2 marches, pas trop haut. Et puis comme on n'y voyait pas assez, on a mis un plus haut et plus haut. Et puis les gens ont suivi. Le dernier, j'ai compté, il y en avait 127 escabeaux. Chanel en face, il nous prend pour Castorama, il a dit.
Et c'est ça aussi la magie de Cannes, la rencontre de passionnés du 7e art venus du monde entier.
Le reportage de Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans les Alpes-Maritimes.
Et c'était le journal Perché de Roman Hockey. Merci beaucoup Roman.
À 6h05, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange avec d'abord les qualifications de Roland Garros. Elles ont débuté hier.
Oui, le tournoi de la Porte d'Auteuil qui retrouve pour la première fois depuis 2019 la totalité de son public. Mais sur la terre battue, ça s'annonce déjà compliqué pour le camp tricolore. Hier, Pierre Hugerbert s'est incliné au premier tour des qualifications. Plus mauvaise nouvelle encore, le numéro 1 français Gaël Monfils a dû déclarer forfait, blessé au pied. Pour la première fois depuis 1999, il n'y aura aucun français tête de série. Roland Garros, ça sera quand même à suivre sur Europe 1, radio officielle du tournoi.
Direction l'Italie avec du cyclisme.
Oui, la 13e étape du Giro après une journée de repos hier. Le peloton a rendez-vous sur les bords de la mer Adriatique. Étape de transition réservée aux sprinteurs. On attend notamment Arnaud Démare pour une 3e victoire sur ce Tour d'Italie. Mais un autre français fait beaucoup parler de l'autre côté des Alpes. Romain Bardet, actuel 3e du général et qui se verrait bien glaner lui aussi une étape.
On a toujours dit qu'on venait là pour le classement général, mais si je peux gagner une étape en passant, je suis passé prêt. J'espère que j'aurai une autre opportunité pour lever les bras. J'ai vécu beaucoup de choses sur les grands tours, des grandes joies comme des déceptions, donc je prends maintenant simplement les jours comme ils viennent.
Romain Bardet qu'on devrait retrouver à partir de ce week-end lorsque la route s'élèvera.
On termine avec du foot, Martin, et la suite du feuilleton Mbappé.
PSG ou Real Madrid, c'est le dilemme auquel fait face l'attaquant du PSG en fin de contrat dans la capitale. Dimanche, le meilleur joueur de Ligue 1 a dit qu'il annoncerait très vite sa décision, probablement avant la fin du mois. Mais son avenir était sur toutes les lèvres au trophée UNFP, l'entraîneur de Rennes, Bruno Genesio.
C'est pas à moi de lui dire s'il doit rester en Ligue 1. Sa décision, elle y appartient. C'est un formidable ambassadeur, c'est un formidable joueur surtout. Et c'est toujours un plaisir, même si parfois c'est difficile de jouer contre lui. Parce que c'est un très très grand joueur, mais c'est une personne qui est restée très humble.
Bruno Genesio au micro de Cyril de la Morinerie.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, je reçois Maître Didier Seban, l'avocat du père d'Estelle Mouzin, à l'occasion de la sortie aujourd'hui de L'Ombre, podcast original de Europe 1 qui revisite cette affaire emblématique. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h10, vous écoutez Europe 1, votre invité Julien est l'avocat du père d'Estelle Mouzin.
Bonjour Didier Seban.
Bonjour.
Merci beaucoup, maître, d'être avec nous ce matin, jour de sortie sur Spotify de L'Ombre, un podcast original produit par Europe 1 Studio, 5 épisodes écrits par Chloé Triomphe qui propose une relecture inédite de l'affaire Estelle Mouzin. On en écoute tout de suite un court extrait.
Là, on a les explications pendant 3 quarts d'heure du professeur qui dit que c'est bon, mais qu'en même temps, il manque un bout, mais qu'en gros, il y a l'ADN d'Estelle qui est sur le fameux matelas, et donc ça confirme l'implication de Michel Fourniret.
L'homme qu'on vient d'entendre, c'est votre client, Éric Mouzin, le papa de la petite Estelle, 9 ans, qui s'est évaporé le 9 janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne, et très rapidement, le nom de Michel Fourniret apparaît dans le dossier, mais il faudra attendre 17 ans pour que le tueur en série avoue l'enlèvement et le meurtre de la fillette. Didier Seban, tout au long de ce podcast, une question revient en permanence. Aurait-on pu connaître la vérité plus tôt ? Que répondez-vous ?
Bien sûr, on avait eu immédiatement un doute. D'abord parce que les enquêteurs belges, quand ils arrêtent Michel Fourniret, on est à proximité de la disparition d'Estelle, ont très vite la conviction que ça peut être ce couple terrible qui est à l'origine de la disparition d'Estelle, et ils vont le dire aux enquêteurs français. Mais peut-être parce qu'on n'a pas un grand respect pour la police belge en France, peut-être parce que l'évidence apparaît tellement lumineuse qu'on ne va pas chercher à la vérifier, eh bien, on ne s'intéressera pas complètement à cette piste. Et je dirais même quelquefois, on essaiera de démontrer que ça n'est pas la bonne.
Oui, parce que pendant de nombreuses années, la piste Michel Fourniret est écartée parce qu'il a soi-disant un alibi en béton, un appel téléphonique passé au moment de l'enlèvement depuis son domicile à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans les Ardennes. Sauf qu'à aucun moment, les enquêteurs de l'époque n'ont émis l'hypothèse que Fourniret pouvait ne pas être l'auteur de ce coup de fil.
Évidemment, ça nous paraissait évident. D'abord, pour plein de raisons, au bout de la ligne, il n'y a personne. Son fils dit « mon père ne m'a jamais appelé ». Sa belle-fille dit « moi non plus, je ne l'ai jamais eu ». Il n'appelait jamais pour les anniversaires. Nous n'avions pas de contact avec lui. Donc, au bout de la ligne, c'est certain que personne ne l'a eu. Donc, quelle certitude peut-on avoir que c'est lui qui a passé ce coup de téléphone ? Ça part de son domicile, ça peut être parfaitement Monique Olivier. Et puis, tout simplement, sur la facture, c'est marqué noir sur blanc, on peut faire du transfert d'appel sur la facture de téléphone de Michel Fourniret. Belgacom écrit cela. Donc, qu'est-ce qui nous dit que, même si c'était Michel Fourniret qui avait passé cet appel, il n'avait pas fait un transfert d'appel et qu'évidemment, cela ne démontrait pas qu'il n'était pas à Guermantes au moment de la disparition d'Estelle. Donc, on avait une absolue évidence et on a voulu à tout prix se dire, cet alibi, ça a éteint, toute chance que ça soit lui.
Et puis, en plus de cette évidence, vous aviez un Michel Fourniret qui a multiplié pendant des années les sous-entendus sur Estelle Mouzin. Le podcast le raconte d'ailleurs très bien. Le grand pervers qu'il est a semé des petits cailloux pour aiguiller l'enquête, mais il n'y a que vous et votre collègue Corinne Hermann qui arrivez à comprendre où il voulait en venir.
C'est tout le problème de notre justice. Au fond, un tueur en série, ça ne se comprend qu'en mettant en perspective ses crimes, qu'en mettant en perspective sa série et sa logique criminelle. Vous savez, Michel Fourniret, par exemple, il avait attendu plusieurs heures avant d'enlever la petite Brichet en Belgique, devant une boulangerie, encore une fois. C'est ce qui est arrivé à Estelle, enfin, à courte distance d'une boulangerie. Donc, en pensant à ça, en voyant que Elisabeth Brichet ressemble beaucoup à Estelle, on se dit, c'est le même scénario qu'il reproduit. Mais si on n'a pas étudié le dossier Michel Fourniret, et si on prend l'affaire Estelle Mouzin comme une affaire toute seule, sans partir du criminel, mais en partant seulement du dossier, eh bien, on ne voit pas ces éléments qui, bout à bout, peuvent faire une conviction et font qu'il fallait absolument fouiller dans cette direction. Et puis, Michel Fourniret se présente comme un joueur d'échecs et il a, à plusieurs reprises, mis les enquêteurs, la justice sur la piste, en écrivant, en parlant d'Estelle Mouzin, en demandant à voir le père d'Estelle. Enfin, il y a eu en permanence des petits signaux qu'on n'a pas voulu entendre.
Est-ce que vous diriez que les services d'enquête et les magistrats ont appris de leurs erreurs, que sans cette affaire, on n'aurait peut-être pas obtenu ce que vous avez appelé de vos voeux pendant de longues années? Je veux parler de ce tout nouveau pôle judiciaire dédié au cold case.
Je crois que l'erreur, la faute lourde de la justice, en tout cas c'est ce que nous soutenons dans cette affaire avec Éric Mouzin et l'association Estelle qui l'accompagne, ça a été un tel scandale, si vous voulez, et puis le fait que Michel Fourniret ne sera jamais jugé pour ce crime abominable, eh bien ça a été un tel scandale qu'à un moment donné, on s'est dit, ça n'est plus possible, on se trompe, il faut faire autrement. Encore faut-il, avec la création de ce pôle, que vraiment on fasse autrement, mais c'est déjà, je dirais, la première étape de dire, on ne peut pas étudier affaire par affaire, mais il faut regrouper les dossiers pour comprendre le parcours d'un criminel en série.
Oui, les magistrats de ce pôle devaient hériter de plus de 200 dossiers, mais d'après nos informations, moins d'une dizaine sont en cours d'instruction à l'heure actuelle, les autres étant toujours à l'étude par le parquet de Nanterre pour voir s'ils remplissent les critères. Vous avez bon espoir que ça avance plus vite dans les semaines à venir ?
J'ai l'espoir. Les familles sont en colère. Elles ont le sentiment, alors qu'elles ont tant souffert des errements judiciaires, des retards, des années de silence, que on recommence à réétudier leur dossier, à repartir à zéro, et ça n'est pas possible. Donc elles vont l'exprimer. D'ailleurs, les présidents d'associations se réunissent à Nanterre, que nous représentons, se réunissent à Nanterre dans les semaines qui viennent. On invitera la presse pour dire qu'il faut que ça aille plus vite, oui, il faut qu'on prenne les choses par le bon bout et qu'on ne recommence pas les errements du passé.
Didier Seban, depuis 2 ans maintenant, il y a eu dans les Ardennes 8 campagnes de recherche du corps d'Estelle Mouzin. Elles n'ont malheureusement rien donné. Est-ce que vous savez si d'autres fouilles sont prévues ?
Avec Madame Kéris, on essaye les dernières technologies, on envisage d'essayer les dernières technologies pour identifier des mouvements de terrain ou des éléments qui permettent de voir où est enterré le corps d'Estelle. Une dernière avancée a eu lieu puisque Monique Olivier a dit qu'elle a assisté à cet enterrement après avoir pendant 2 ans nié, avoir même accompagné Michel Fourniret. Elle en est arrivée maintenant à dire « j'y étais, j'ai assisté à l'enterrement ». Et donc, on va encore la réinterroger. Sa perversité fait qu'elle joue avec les enquêteurs, les magistrats, qu'elle joue avec tout le monde. Mais on ne désespère pas. On a une dernière tentative avant de renvoyer le dossier aux assises qui va avoir lieu juste après l'été, normalement, ou en tout cas dans les mois qui viennent.
Merci infiniment, Didier Seban, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes l'avocat du père d'Estelle Mouzin. L'ombre, c'est le titre de ce podcast original produit par Europe 1 Studio et que vous pouvez écouter dès à présent sur Spotify. Excellente journée à vous.
Merci beaucoup.
On conclut avec votre partition, Omblin. Il sera ce soir en concert à La Cigale, à Paris. Vous nous parlez du jazzman Avishai Cohen.
Un artiste, Julien, dont le coup de génie a été de décloisonner le jazz. Avishai Cohen fait partie des compositeurs et arrangeurs les plus influents de ces 20 dernières années. On l'a vu jouer aux côtés d'Alicia Keys, du pianiste Herbie Hancock, de Bobby McFerrin. Inspiré par les musiques de chaque continent, Avishai Cohen incorpore à ses compositions métissées des notes pop, classiques, folkloriques, un musicien qui met son instrument, la contrebasse, au centre de la partition.
Cette contrebasse, membre souvent permanent de la section rythmique au sein des orchestres, devient grâce à Avishai Cohen l'instrument leader.
Oui, et c'est pas si courant. Hein. Avishai Cohen cultive l'art d'être soliste. Sa démarche et son audace ne sont pas sans rappeler celle du célèbre bassiste Marcus Miller, le maître du slap. Vous savez, qui frappe les cordes à redonner à la basse solo ses lettres de noblesse.
Et si la carrière de Marcus Miller a été installée par le trompettiste Miles Davis, Avishai Cohen a joué sous l'autorité du pianiste Chick Corea.
Oui, il le recrute au milieu des années 90 et enregistre avec lui plusieurs album. Né à Jérusalem, Avishai Cohen a appris d'abord le piano en Israël. Lorsque la contrebasse est devenue son instrument de prédilection, il a suivi une formation intensive dans les clubs new-yorkais, mais sachez que c'est au clavier toujours que le musicien compose.
Avishai Cohen doit sa notoriété à son sens de la mélodie et à ses associations osées de sonorités.
Oui, ce qui a foncièrement séduit les réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano, qui pour chacun de leurs films apportent un soin bien particulier à la bande originale. Bercé par la musique jazz du contrebassiste pendant l'écriture du Sens de la Fête, il lui propose naturellement, disent-ils, à la fin d'un de ses concerts, de participer au projet. Et cela va aller bien au-delà de leurs espérances, puisque les compositions d'Avishai Cohen avec ses percussions, ses flûtes indiennes, incarnent totalement un personnage du film. Qu'il soit en sextette, enrobé par les cordes d'un orchestre symphonique ou devant un micro pour faire entendre son timbre aussi grave que celui de son instrument, Avishai Cohen n'impose aucune limite à sa musique.
Et c'est en trio qu'il revient.
Oui, sa formation favorite. Il a enregistré son album avec le pianiste originaire d'Azerbaïdjan, Elchin Chirinov, et à la batterie, Ronnie Caspi, qu'il a découvert lors du confinement. Comme beaucoup de musiciens, elle jouait virtuellement pour les autres et reprenait des morceaux du jazzman, 25 ans après Chick Corea qui lui avait tendu la main. Avishai Cohen a invité la batteuse de 21 ans à rejoindre son groupe. Passage de témoin magistral. Extrait du dernier album d'Avishai Cohen qui s'appelle Shifting Sands. C'était Video Game. Le contrebassiste sera ce soir en concert à La Cigale à Paris et à l'affiche de festival cet été.
Merci beaucoup Ombline. Vous restez avec nous dans un instant. La matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
Europe Matin,
6h27. Excellente matinée.
Et on vous retrouve demain, hein, toujours sur Europe 1 à partir de 5h. Bonjour Dimitri.
Bonjour Julien. Bonjour Ombline.